Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, pour le samedi 21 janvier 2012, biologie, évolution, créationnisme, comment enseigner l'évolution à des élèves croyant qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'une conférence Bruxelles Sceptico Pub, donnée le samedi 19 novembre par Joël Erbaum.
Voilà, donc comme vous le savez, on va parler aujourd'hui de biologie, d'évolution, de créationnisme, et plus exactement du refus de la part de certains adolescents d'accepter l'enseignement de la théorie de l'évolution en raison de convictions religieuses. Je vais commencer par vous rappeler un petit peu ce qu'est la théorie de l'évolution en faisant un petit rappel historique. Donc, tout d'abord, je vais commencer par ça. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelques générations et ne toujours pas croire en l'évolution? Alors en fait, si pour des gens comme vous ici et beaucoup de gens en fait maintenant dans notre société moderne, pour nous le fait que les animaux évoluent bien, en fait se transforment effectivement de génération en génération et évoluent, si pour nous ça semble assez évident que l'évolution peut exister, ça n'a pas toujours été le cas. Fut un temps, c'est toujours pas le cas pour tout le monde d'ailleurs maintenant, mais fut un temps, la plupart des gens pensaient que la Terre, l'univers, les animaux sur la Terre avaient été créés par un Dieu, suivant un plan bien défini, souvent expliqué dans la Bible, etc. Bien sûr, malgré tout, beaucoup de savants dans le passé, en voyant ce genre de choses, parce que c'est un cas d'évolution, même si c'est pas une évolution qui est due à la sélection naturelle, mais c'est dû évidemment à la sélection d'un éleveur, il s'agit bien d'une évolution ici aussi. Hein. Beaucoup de savants se posaient des questions en voyant les évolutions parmi les animaux élevés, le bétail, etc. Et notamment Darwin s'est posé des tas de questions. Il faut savoir que Darwin, quand il est revenu après 5 ans de voyage sur le Beagle, il a mis encore 23 ans avant de faire son livre, de publier son livre. 23 ans pendant lequel il se posait des tas de questions sur comment on allait recevoir sa nouvelle théorie, etc. Et pendant tout ce temps-là, ben, il a fait plusieurs choses, dont notamment interroger énormément les éleveurs de sa région pour voir comment se passait la sélection artificielle et pour essayer d'en tirer des conclusions pour sa théorie également. Petite histoire, petite parenthèse, Darwin aussi s'est consacré pendant des années, pendant 8 ans, à l'étude des cirripèdes. Je ne sais pas si vous savez ce que sont ces cirripèdes. Donc il a fait des gros bouquins sur les cirripèdes qui sont toujours des bouquins de référence. Les cirripèdes, c'est ce qu'on appelle aussi les balanes. Les balanes, ce sont des... c'est ça, vous avez certainement déjà vu en bord de mer, sur les planches, sur les rochers, sur les bateaux, etc. Ce sont en fait des crustacés, même si ça ressemble à des mollusques, ce ne sont pas des mollusques, ce sont des crustacés. Et je suis en train de faire une petite parenthèse, parce que vous savez la caractéristique qu'ils ont, les balanes. Mais en fait, ce sont les animaux qui ont le plus grand sexe vis-à-vis de la taille de leur corps, parmi tous les... Alors, c'est peut-être comique à dire comme ça, mais je vais revenir là-dessus après. Je ne dis pas ça simplement pour faire sourire. Maintenant, avant, les savants, ils se posaient d'autres questions aussi, en voyant surtout les fossiles, quand on a commencé à découvrir les fossiles un peu partout, et à voir qu'il existait avant, dans le passé, des espèces animales qui n'existaient plus, mais qui avaient quand même des tas de rapports avec les espèces animales présentes, etc. On se posait des tas de questions, et on pourrait penser que si le créationnisme était vraiment toujours enseigné à l'école, à l'heure actuelle, vraiment, comme les créationnistes le voudraient, face aux fossiles, mais on pourrait se dire qu'ils seraient vraiment embêtés et ils seraient obligés d'expliquer que le 8e jour, tout en rigolant aux éclats, Dieu a enterré les fossiles un peu partout pour faire des bonnes blagues à tous les savants. Alors, donc, la théorie de l'évolution, au 18e siècle, il y a déjà eu des auteurs comme Maupertuis, Buffon, etc., qui ont commencé à émettre l'idée qu'effectivement, les espèces... venaient d'un ancêtre commun et se diversifiaient, changeaient, évoluaient, transmettaient aux générations futures leurs caractéristiques. Donc il y avait une évolution. Mais toutes ces théories-là étaient vraiment très très bourrées d'erreurs toujours. Par exemple, Buffon, lui, il imaginait qu'effectivement, il y avait certainement évolution des animaux, mais au sein uniquement de familles, voire même au sein de genres. Donc qu'est-ce qu'il se disait ? Il se disait, vraisemblablement, il y avait un crapaud à l'origine, un seul type de crapaud qui a effectivement évolué en plein de sortes de crapauds. Même chose pour le crabe, je ne sais pas si parler du crapaud ou du crabe, même c'est un exemple, même chose pour le crabe qui aurait évolué, qui aurait donné tous les autres crabes. Mais il ne voyait aucun lien entre un ancêtre avant ça, qui aurait pu donner naissance au crapaud et au crabe, évidemment. Donc pour lui, il y avait quand même toujours une forme de création, même s'il n'en parlait pas, création du premier crapaud, premier crabe qui aurait évolué en la diversité de crapauds et de crabes. Maintenant, après, au 19e siècle, il y a eu Cuvier, Wallace, et surtout la théorie du transformisme de Lamarck, qui ont commencé à vraiment émerger. Alors Lamarck, il avait quand même vu juste beaucoup de choses, puisque pour Lamarck, effectivement, il y avait évolution à partir d'un ancêtre commun, à l'origine, qui avait donné une diversité d'animaux, mais seulement Lamarck, là où il se plantait complètement, c'est qu'il pensait que le moteur de l'évolution, ce qui faisait évoluer les animaux, c'est une sorte de volonté intrinsèque aux animaux de changer et qu'il donnait aux générations futures, transmettait aux générations futures ce changement. Autrement dit, ça voulait dire quoi? Il pensait que les girafes, à l'origine, n'avaient peut-être pas un long cou, tout elles avaient un cou normal, parce qu'elles broutaient l'air par terre. À un moment donné, plus d'air par terre, changement du milieu, changement d'environnement, obligé d'essayer de manger les feuilles dans l'arbre, et alors elles ont tendu le cou vers le haut, et en forçant leur cou vers le haut, petit à petit, elles ont initié un changement, dans les parcours de gènes à ce moment-là, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'elles ont transmis aux générations futures. Donc là, il avait complètement loupé quelque chose d'essentiel. C'est évidemment en 1859, avec le livre « L'origine des espèces », que la révolution est arrivée. Deux choses essentielles dans ce livre, deux grandes idées. La première, c'est que l'unité et la diversité du vivant s'explique par l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Diversité du vivant, on a effectivement plein d'animaux différents sur la Terre, ça s'explique de par l'évolution qui fait naître de nouvelles espèces tout le temps, constamment. Et unité, je vais revenir là-dessus plus en profondeur plus tard, mais effectivement, il y a toujours une forme d'unité, des ressemblances entre beaucoup d'animaux qui montrent qu'effectivement, il y a des ancêtres communs. Donc, ancêtres communs, qui donne l'unité, évolution, qui donne la diversité du vivant. Cette idée était déjà présente chez Lamarck. Hein. Par contre, la grande idée, c'est que le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. Petite parenthèse, souvent on dit que la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Ça, c'est une vision un petit peu raccourcie, parce qu'on a tendance à voir uniquement le fait que la sélection naturelle ne laisse survivre que le plus apte, et les autres meurent. En définitive, il ne faut pas voir que cet aspect-là, il faut voir aussi l'aspect reproduction. En fait, plus ils se reproduisent, plus les animaux se reproduisent, plus ils donnent une descendance, plus aussi ils vont proliférer et donner naissance à d'autres animaux. Donc l'aspect reproduction est également très important, et pas que l'aspect sélection, disparition du plus faible, évidemment. Depuis lors, eh bien, la théorie de Darwin, petite parenthèse, l'évolution est un fait, tout comme la gravité est un fait, une pomme tombe parce qu'il y a de la gravité, c'est un fait, l'évolution est un fait, contesté peut-être par certains, mais c'est un fait. La théorie darwinienne est une théorie expliquant ce fait, ce sont deux choses qu'il faut bien distinguer. Alors, la théorie de Darwin, depuis lors, a fortement évolué, elle a eu des apports de toutes sortes d'autres théories, et à l'heure actuelle, la théorie de l'évolution, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Synthétique parce qu'elle fait la synthèse en plusieurs théories, principalement entre la théorie darwinienne, mais celle aussi de Mendel, de la génétique, etc., qui n'était pas connue du temps de Darwin. Cette théorie synthétique de l'évolution, eh bien, c'est la théorie qui actuellement explique le mieux le phénomène de l'évolution, et elle fait un large consensus auprès des scientifiques depuis des années et des années maintenant. Deux notions importantes à pointer dans la théorie de l'évolution, la notion de hasard et du temps imparti pour l'évolution, c'est la première notion, et c'est vraiment la plus importante. Cette notion, elle va de pair avec le fait que le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. Donc en fait, et c'est là que Lamarck, évidemment, s'était trompé, c'est que pour lui, c'était pas une sélection naturelle, mais une volonté des animaux d'évoluer. Donc là, effectivement, il y avait non pas un hasard total, mais il y avait une volonté, donc une sorte de finalité, de but à atteindre de la part des animaux. Tandis que pour Darwin, c'est la sélection naturelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation génétique propose et que le milieu dispose. Donc, la variation génétique, elle se fait au hasard, totalement au hasard. Elle propose quoi? Elle propose des tas de possibilités, des tas de variants possibles. au hasard, donc, et le milieu, lui, le milieu, l'environnement, la nature, les changements dans, la, dans, dans le milieu disposent. Et là aussi, on ne peut pas dire qu'il y a une finalité ou un but. C'est un fait, tout simplement, que les moins adaptés vont disparaître et les plus adaptés vont proliférer. C'est tout. Donc, cette notion de hasard, elle est vraiment très, très importante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une finalité. Tout ce qui existe aurait très bien pu exister, tout ce qui existe aurait très bien pu ne pas exister ou être tout à fait différent. Et alors, comme je l'ai dit, c'est lié avec le temps imparti, parce que pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre que ce n'est possible qu'avec énormément de temps. L'évolution, effectivement, se mesure en milliers, voire millions d'années, effectivement. La notion de population, c'est la deuxième notion importante, et de la variabilité au sein des populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évolution ne joue pas sur les individus, elle joue sur des populations d'individus. En fait, c'est parce que dans une population d'individus d'une même espèce, il y a une assez grande variation de caractéristiques que le milieu va pouvoir sélectionner une caractéristique plus qu'une autre et que ça va faire évoluer une espèce vers quelque chose d'autre. Ça va? Comprenez bien? Alors, ça fait, par exemple, petite remarque, ça fait qu'il y a existence de la reproduction sexuée. Pourquoi? Parce que quand il y a reproduction sexuée, il y a un beaucoup plus grand brassage des gènes, il y a un beaucoup plus grand mélange, donc beaucoup plus de variations de caractéristiques dans les populations. Donc, la reproduction sexuée a été sélectionnée par l'évolution comme étant une caractéristique avantageuse pour les espèces. Alors je reviens sur mon balane, sur mon cirripède. Je vous ai dit qu'il avait le plus grand sexe de tous les animaux vis-à-vis de la taille de son corps. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Non.
Je vais vous dire un truc. Tout ce...
Oui. Vas-y. Si, exprime-toi, vas-y. Non. Comme j'ai dit, les bananes, ils sont fixes sur des rochers.
Ils sont très loin.
Ours, voilà, tout à fait, c'est ça. S'il avait un sexe relativement petit, il serait obligé de s'accoupler uniquement avec tous ceux qui sont juste à côté de lui. Tandis que s'il a un grand sexe, il va pouvoir s'accoupler avec des individus qui sont beaucoup plus éloignés. Donc beaucoup plus grand brassage des gènes, etc. Et une beaucoup plus grande variation des caractéristiques de la progéniture et dans la population. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas le malade qui a voulu avoir un sexe plus grand pour pouvoir aller... Mais tout simplement, cette caractéristique-là a été sélectionnée, une fois de plus, par l'évolution comme étant une caractéristique donnant une plus grande variabilité. Donc, les malades ont pu s'adapter beaucoup plus facilement. On revient donc sur ce petit dessin-là, qu'on a vu tout à l'heure.
C'est absurde.
Et alors, en fonction de ce que je viens de vous dire, maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir voir des choses qu'on peut critiquer quand on voit ça?
On ne descend pas du singe, on descend dans un centre commun.
C'est déjà un point qu'on peut voir, parce qu'effectivement, ici, à la fin, je reviens là-dessus, hein, mais effectivement, on a l'impression que, pouf, on évolue à partir d'un singe moderne vers l'être humain. Autre chose?
Toutes les espèces ne descendent pas, il y a un ancêtre commun, une amie commun, mais on ne descend pas de...
Voilà.
De en poison, fait, enfin...
Oui, ce qu'il y a, c'est que...
Ça représente...
On a une impression que l'évolution est linéaire.
Pas
ça. Bon, une impression totalement linéaire de l'évolution, ce qui est tout à fait faux, c'est une erreur. Puisque, en définitive, puisque j'ai dit que la notion du hasard est très importante, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas une linéarité, mais un développement en buisson. Parce qu'il y a plein de tâtonnements, ça part dans tous les sens, et en définitive, il y a plein de branches qui s'arrêtent et qui ne continuent pas dans le temps. Par exemple, voilà, si on imaginait une évolution linéaire depuis les dinosaures aviens vers les oiseaux modernes. Comme ça, je compare de ça, et tout à fait en ligne, on se retrouve pour finir avec le pigeon. C'est tout à fait faux, évidemment, parce que la réalité, elle est comme ça. La réalité, elle est comme ça. On a des ancêtres communs, un ancêtre commun qui a peut-être donné tout ça, là un ancêtre commun qui n'a donné que cette partie-là, là un ancêtre commun qui n'a donné que cette partie-là, et puis en définitive, toutes les branches qui sont là n'existent plus. Il n'existe plus que ça, pour l'instant. Donc il y a vraiment une diversification en buissons, ramifiés, comme ça. Attention que beaucoup de gens ont tendance à dire, oui, bon, le seul qui a survécu, le seul qui a... la seule branche qui a été positive, c'est celle qui a donné les oiseaux ici. On peut la suivre en arrière. C'est relativement faux aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ces branchies, même si elles n'existent plus, ont vécu pendant des millions d'années. Hein. Donc ça a été quelque chose de positif pendant des millions d'années, adapté, mais effectivement, pour l'instant, ce que l'on voit existant toujours, c'est cela. Vous ne voulez pas dire grand-chose. Alors, deuxième chose, effectivement, c'est qu'on a une impression que l'évolution conduit toujours vers quelque chose de plus complexe. Parce qu'on voit, on a démarré d'une éponge, et puis on augmente tout à fait, jusqu'à quelque chose de plus
complexe. L'extinction du camp, ça s'appelle là. Le volcan, super-volcan en Antarctique, tout a été remis à zéro, il n'y a plus que des champignons.
Oui, et puis de toute façon, donc c'est une erreur là, de penser que l'évolution est vers le complexe, puisque, même chose, puisqu'il y a une importance du hasard, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, dans les populations, un ensemble de caractéristiques qui sont proposées, et ben, tout à fait au hasard, ça peut être vers une complexification, comme vers une simplification, et ne seront retenus que les caractéristiques qui présentent un avantage sélectif, mais qui peuvent très bien être des caractéristiques de simplification plutôt que d'aller vers le complexe. Un exemple, ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Vers de terre, ça.
C'est un batracien, ça.
Et justement, c'est pas un ver de terre, c'est effectivement un amphibien, c'est une cécilie. Ouais. C'est un amphibien qui est très proche de la salamandre. Donc, à un moment donné, un de ses ancêtres avait des yeux, quatre pattes, ressemblait très fort à une salamandre, et pour une raison ou pour une autre, bien, il a évolué vers quelque chose de beaucoup plus simple, ressemblant à un ver de terre. C'est un animal fouisseur qui vit sous terre, comme un ver de terre. Il a perdu ses pattes. Petite caractéristique aussi importante, il a toujours des yeux, mais ses yeux sont recouverts d'écailles ou de peau et ne servent plus à rien. Donc, l'évolution l'a conduit à un moment donné à avoir des yeux qui ne servent plus à rien et qui sont maintenant recouverts d'écailles. Donc, on a été là vers une simplification. En règle générale, même, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on regarde la plupart des animaux, ça va vers la complexification, vers la simplification, vers la complexification, etc. etc. Et ça peut être infini comme ça. Hein. Ça peut, l'exemple de la baleine qui vient à l'origine d'animaux vivants plus proches de poissons qui vivaient dans la mer, qui ont évolué petit à petit vers des amphibiens, et puis petit à petit vers quelque chose ressemblant aux mammifères. Ces mammifères-là, qui était avec quatre pattes chassé près du bord de la mer, et puis petit à petit, c'est l'ambulocétus, il est retourné dans la mer, a fini par perdre ses pattes, retrouver des nageoires, et se retrouve même avec des embryons de pattes. Il est très possible que les baleines, dans des millions d'années, si elles n'ont pas disparu, ça c'est autre chose, on peut très bien imaginer qu'elles vont réévoluer vers quelque chose qui va ressortir de l'eau, réavoir de nouveau des membres fonctionnels, c'est tout à fait imaginable. Donc on ne peut pas se dire que c'est toujours vers quelque chose de plus complexe. Ok, donc c'est la même chose ici. Oui, alors en plus de ça, notre petit dessin là, il va jusqu'à l'être humain à la fin. Donc non seulement il montre une complexification, mais il montre l'être humain à la fin. Ce qui veut dire que l'homme serait le sommet de la complexité, de l'évolution. Ce qui est tout à fait idiot. C'est quelque chose de tout à fait anthropocentrique que d'imaginer telle chose. Oui, nous, être humain, on a tendance à penser qu'on est supérieur, etc., parce qu'on a un cerveau. Oui, si on analyse les caractéristiques uniquement en termes de cerveau, on est peut-être plus développé. Mais si on analyse en termes de longueur de sexe, ce sera le balane, et de capacité à nager, eh bien, ce sera les poissons, etc. Donc, il n'y a pas de sommet de l'évolution. Je vais revenir encore là-dessus après. Et la dernière chose, c'est ce que tu disais. Donc, conclusion, là, pas de finalité hein, dans l'évolution. Puisque l'homme n'est pas au sommet ou quelque chose comme ça, on va pas faire une complexification, mais on peut aller vers une simplification, il n'y a pas de finalité, pas de but dans l'évolution. Et dernière chose, c'est ce que tu disais, on a l'impression que le sage moderne serait dans ces deux langues, puisqu'à un moment donné, on passe par un sage moderne, et puis on passe à l'autre, ce qui est tout à fait fou, c'est une erreur. On a en fait un ancêtre commun, qui est différent des sages modernes, qui a donné naissance il y a 40 millions d'années à tous les sages actuels, y compris l'homme, qui est un sage moderne. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on voit très bien ici, 40 millions d'années, il y a eu une première séparation qui a donné vers les singes araignées, qui a continué vers les autres, et puis il y a 19 millions d'années, il y a eu une autre séparation, chaque fois parce qu'il y a une caractéristique qui s'est séparée des autres branches. À la fin, il y a 6 millions d'années, et bien il y a eu la différenciation entre l'homme et le chimpanzé qui s'est faite. Petite remarque, tous sont aussi évolués que l'homme. En définitive, ils ont le même parcours. De là à là, le singe araignée a continué à évoluer de cet ancêtre humain à là. Tout comme l'être humain a continué à évoluer, pas plus ni moins. Donc, on ne peut pas dire que lui est moins évolué que là en termes évolutionnistes. Hein. Je ne parle pas ici de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Même chose, à partir de ce moment-là, eh bien, l'ancêtre commun qui était là a évolué vers l'homme,
et a évolué vers le chimpanzé sur une autre branche. Le chimpanzé est un animal qui a autant évolué que l'être humain. J'aime beaucoup ce graphique-là parce qu'ils ont fait l'effort de mettre l'homme là et le chimpanzé là, bon, plutôt l'inverse, mais ça aurait donné l'impression de... on a bien été obligé de fractionner comme ça, on pourrait partir dans l'autre sens, mais à la fin, là, ils auraient pu inverser, mettre tous les sages de ce côté-là, enfin, sages, nous sommes des sages aussi, et l'homme ici, mais ça aurait donné aussi une impression de supériorité. Non, ils l'ont mis de ce côté-là, en plus, ils ont mis une femme, ce qui est rare, c'est pas plus mal. Donc, dans le cadre des sciences de l'évolution, l'homme n'est pas plus évolué que n'importe quel autre animal. Tous les animaux ont évolué le même nombre d'années, différemment, c'est tout. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que c'est que... Voilà, j'ai parlé de l'évolution, maintenant je vais attaquer. Qu'est-ce que le créationnisme ? Alors, à l'origine, qui est à l'origine, qui est à l'origine du créationnisme ? À l'origine, ce sont des groupements protestants fondamentalistes aux États-Unis, dont la doctrine religieuse était basée sur le fait que la Terre, l'univers, ont été créés par Dieu selon des modalités conformes à la lecture littérale de la Bible. Donc c'est vraiment eux qui sont à l'origine du mouvement créationniste. Ce mouvement lutte pour voir la Bible prendre une place importante au cœur de l'enseignement. Et plusieurs étapes ont jalonné l'histoire de ce mouvement, avec le procès du singe en 1925, le procès de Dover en 2004-2005, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Vous pouvez trouver des tas de renseignements sur Internet à ce propos-là. Maintenant, et du côté des musulmans ? Eh bien, du côté des musulmans, les arguments créationnistes chrétiens, protestants, ont commencé à devenir populaires dans les années 80 parmi les musulmans. D'abord en Turquie, avec principalement Harun Yahya, qui fait toujours parler énormément de lui. De là, ça s'est parti en Indonésie et en Malaisie, et puis ça a progressé énormément dans la diaspora musulmane, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Donc, il semblerait, parce que je n'ai pas trouvé la moindre étude statistique ou quoi que ce soit, que les principaux créationnistes de chez nous, ce seront plutôt, enfin dans les écoles, ce serait plutôt du côté des musulmans qu'il faudrait les trouver, comme on a vu dans le petit film avec Omar. Voilà. Mais je dis il semblerait, ce n'est pas certain. Plus généralement, donc comme on le voit, puisque le créationnisme, ça peut être dans plusieurs religions différentes, etc. Donc, pour les protestants fondamentalistes, ils s'attachent à la lecture littérale de la Bible. Les musulmans, évidemment, c'est pas la lecture littérale de la Bible. Bah, plus généralement, comment est-ce qu'on peut définir le créationnisme ? En parlant de créationnisme philosophique. Donc, le créationnisme philosophique stipule que la matière et ou l'esprit ont été créés par une action qui leur est extérieure. Extérieure. Point. Entendez Dieu, mais bon, chacun, il reste souvent fou là-dessus, ils peuvent rester fous là-dessus. Ça s'oppose à ce qu'on appelle le matérialisme immanentiste, qui lui affirme que le monde réel est constitué de matière, y compris les manifestations très intégrées de celle-ci, l'esprit, la pensée, la société, etc. Et que cette matière est incréée, donc elle n'a pas été créée, et elle porte en elle-même les ressources de son propre changement. Voilà. Ça, ce sont deux positions philosophiques qui ne sont ni testables, ni étudiables scientifiquement, ce sont des positions philosophiques et rien d'autre. Les différents créationnismes. Alors, comme vous avez pu le comprendre, il y a différents mouvements créationnistes. Déjà, dans plusieurs religions différentes, mais il faut savoir que certains ne s'attachent pas vraiment à une interprétation littérale de la Bible, pas du tout. Donc, ces différents mouvements créationnistes, ils vont adopter différentes postures afin de s'opposer, de faire plier, ou même de dominer la science. Beaucoup d'auteurs classent ces mouvements créationnistes en fonction de leurs différentes postures, de leurs différentes attitudes. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, on peut trouver facilement ça sur le net. Moi, pour moi, ce qui est important de savoir, c'est que les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants habituellement, j'analyse vraiment les problèmes dans l'enseignement, hein. Les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants habituellement, ils vont de la pure négation pur et simple des résultats de la science en matière d'évolution, l'évolution n'existe pas, jusqu'aux tentatives de faire passer une conception théologique pour de la science, afin que celle-ci soit enseignée au moins en parallèle à la théorie de l'évolution. Vous voyez la différence ? De l'extrême, l'évolution n'existe pas, à l'autre extrême, où, oui, l'évolution existe, mais on habille nos concepts théologiques avec un peu de science autour pour qu'ils soient enseignés aussi en parallèle de la théorie de l'évolution. Mention spéciale pour le dessin intelligent, Intelligent Design, ID, qui effectivement s'inscrit dans cette dernière catégorie, comme vous savez, si vous le connaissez, c'est évident. En fait, le dessin intelligent, il affirme que certaines caractéristiques de l'univers et des êtres vivants sont mieux expliquées par une cause intelligente externe et non par un processus tel que la sélection naturelle. Ça va? Vous suivez bien? Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font, le dessin intelligent? Ils s'emploient à éplucher toutes les publications scientifiques, etc. Et ils s'emploient à critiquer tout ce qui peut l'être dans la théorie darwinienne de l'évolution, sous une apparence de scientificité, pour mieux faire passer leur concept théologique. C'est en fait une version retravaillée de ce qu'on appelle l'analogie finaliste du théologien anglican William Paley. William Paley, qu'est-ce qu'il disait? Il prenait l'exemple d'une montre, il disait, voilà, si vous avez ramassé une montre par terre, on trouve une montre par terre, vous la voyez, vous la regardez, vous l'ouvrez, vous voyez tous les rouages, ça fonctionne merveilleusement bien, tous les rouages imbriquent, ça fonctionne pile poil, c'est très bien fait. Et bien, quand on voit ça, même si on l'a trouvé par terre, on ne saurait dire qu'une chose, ça a été fabriqué par un horloger. Ça ne saurait pas avoir été fabriqué par autre chose qu'un horloger, il a fallu un horloger pour fabriquer la montre. Quand on voit l'œil de l'être humain ou des animaux, l'œil est tellement parfait, la cornée qui renvoie les rayons vers la rétine, etc., au parfait point où ça. C'est tellement parfait que la seule conclusion qu'on pourrait tirer, c'est qu'il a fallu un horloger aussi, donc un créateur, pour faire cet œil. Évidemment, c'est faire fi des millions d'années qu'il a fallu pour obtenir l'œil à partir de. Rien à la limite. Voilà. Ok. Pourquoi le créationnisme? L'absence de destinée fait peur. Donc, il y a plusieurs sortes de créationnisme, mais tous prennent leur fondement dans la peur du fait que si la théorie de l'évolution est vraie, le milieu, comme il est imprévisible sur le long terme, il rend via la sélection naturelle de devenir une espèce imprévisible. On ne sait pas ce qu'une espèce qui vit maintenant va devenir plus tard. On ne saurait pas le savoir, puisqu'on ne peut pas prévoir ce que sera la sélection naturelle, ce que sera l'évolution du milieu plus tard. Du coup, ça rend caduque toute notion de destinée. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de destinée possible avec l'évolution. Autrement dit, l'être humain aurait très bien pu ne pas exister ou pourrait disparaître, etc. Mais la science, elle n'est pas là pour nous rassurer. C'est vrai que la théorie de l'évolution n'incorpore ni transcendance, ni but, ni destinée. Mais elle n'a pas à donner de sens à notre vie, ni à défendre ou préconiser aucune valeur, aucune morale. Ce n'est pas le rôle d'une théorie scientifique. Les poussées créationnistes dans l'enseignement en Europe. Alors, je dois vous avouer que on ne trouve aucune étude sérieuse montrant vraiment ce qui se passe en Belgique ou en France au niveau scolaire vis-à-vis des refus des ados de suivre l'enseignement du darwinisme, etc. On a vu dans le petit reportage là, qu'elle disait on sait qu'à Scarbec des jeunes ont quitté les cours plutôt que. On sait, mais c'est quand même pas démontré. Ça ressemble quand même. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça ressemble souvent à des retranscriptions de ce qui s'est passé dans d'autres pays qu'on réadapte à notre pays, voire même des fois à des histoires qui ressemblent à des légendes urbaines. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais il est difficile de voir vraiment à quel point ça a de l'ampleur. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les lobbies créationnistes, eux, ont une influence réelle sur les ministres de l'enseignement dans beaucoup de pays en Europe. Et je vais vous montrer un petit film qui montre cela. Qui est un film, en fait, c'est Anne Brasseur, rapporteur de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation du Conseil de l'Europe, qui parle de ça. Alors...
Fin juin 2007, ce rapport recense les percées créationnistes dans les écoles d'Europe, morceau choisi.
Vous avez, par exemple, en Allemagne, en 2007... La ministre de l'Éducation du pays de Hesse avait proposé de parler également de la création au cours de biologie. En Pologne, il y avait le ministre délégué de l'Éducation qui a dit que la théorie de l'évolution n'était que mensonge et qu'il ne fallait pas l'enseigner et que cette théorie servait tout au plus de base pour un roman de science-fiction. Par exemple, en Italie, c'était en 2004, la ministre de l'Éducation nationale a retiré la théorie de l'évolution des programmes
scolaires. Ça va ? Mes films sont de temps en temps un peu coupés à la fin. Donc, je reprends mon PowerPoint.
je suis de 72.
Donc suite à ça, suite au rapport de cette dame, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui regroupe 47 pays, a adopté le 4 octobre 2007 la résolution 1580 sur les dangers du créationnisme dans l'enseignement. C'était principalement des recommandations données à ces 47 pays pour comment se comporter vis-à-vis du danger du créationnisme dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle dit cette résolution ? C'est qu'il faut, je la résume vraiment, hein, je prends les points principaux, il faut défendre et promouvoir le savoir scientifique. Il faut promouvoir l'enseignement de l'évolution en tant que théorie scientifique fondamentale dans les programmes généraux de l'enseignement. Et il faut s'opposer fermement à l'enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique, au même titre que la théorie de l'évolution. Et même en général, à ce que des thèses créationnistes soient présentées dans tout cadre disciplinaire autre que celui de la religion. Ça a eu comme conséquence que toutes les cas cités par cette dame ici, ils ont dû faire marche arrière, et le ministre de l'enseignement de Serbie a même dû démissionner. Donc ça a eu quand même des conséquences positives. Comment répondre à quelques positions classiques des créationnistes ? Donc, je vous ai dit que les créationnistes, ils avaient des positions qui vont du rejet total de la théorie de l'évolution jusqu'à essayer de s'immiscer sous un couvert pseudo-scientifique dans les cours de sciences. Donc, je vais essayer d'analyser quelques positions classiques de ce type et comment réagir vis-à-vis de ces positions. D'abord, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nient l'évolution en disant qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de l'évolution ? Eh bien, en répondant tout simplement que si, justement, des preuves de l'évolution, il y en a des tonnes, et c'est peut-être même la théorie de l'évolution, la théorie scientifique, où il y a le plus de preuves. Je vais en donner quelques-unes. D'abord, le fait que tous les êtres vivants partagent énormément de caractéristiques communes. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est la preuve qu'ils partagent des caractères hérités d'un ancêtre commun. Exemple. Si on regarde le squelette d'une grenouille et le squelette de l'être humain, c'est presque le même nombre d'os, c'est presque les mêmes os. C'est juste qu'ils sont passés différemment, qu'ils ont une taille différente, mais c'est presque similaire. Hein. C'est indéniable, on a un ancêtre commun avec la grenouille qui nous a donné un squelette très similaire. Alors vous allez me dire, si on compare une éponge et un chien, c'est moins évident. Je vous dirais que ça dépend du chien quand même. Hein. Plus sérieusement, entre l'éponge et le chien, nous sommes quand même constitués, tous les animaux, de cellules. Cellules presque identiques. Et même si on va plus loin, justement, si on compare les virus, les plantes, les animaux, etc., si on compare tous les êtres vivants, on a au moins tous de l'ARN qui prouve qu'à l'origine, on a un ancêtre commun. Ok ? Ça, c'est une évidence qui est en plus confirmée par la paléontologie, puisque quand on regarde les fossiles des animaux qui ont existé dans le passé, on peut voir des correspondances entre fossiles du passé, et animaux présents, etc. Donc, tout ça est confirmé par la paléontologie. Maintenant, il y a aussi l'observation directe, parce que oui, on a pu, parce que souvent on dit « ce n'est pas observable, on n'a jamais pu voir des animaux évoluer », c'est tout à fait faux. On peut observer directement des changements génétiques au cours du temps chez certains animaux, et une évolution conduisant même à l'apparition de nouvelles espèces. On l'a déjà constaté, principalement en laboratoire, en agronomie, en médecine, en bioingénierie, mais aussi dans la nature. Un exemple, un petit lézard qui, dans les années 40, a été, pour une expérience, transporté sur une île de Grèce, je pense, ou Crète, je ne sais pas, dans un milieu où il n'existait pas, ce lézard-là. On l'a transposé là, et puis 40 ans après, on a été réétudié ce lézard-là. Et bien, en 40 ans, il avait évolué pour, d'un lézard carnivore, insectivore, se transformer en un lézard herbivore. Et même, il avait eu une évolution dans ses intestins, dans tout son système digestif, pour s'adapter au nouveau milieu qui ne présentait certainement pas assez d'insectes pour manger, ou je ne sais pas quoi exactement. Donc, on a pu observer vraiment l'apparition d'une nouvelle espèce. Même chose avec ce qu'on appelle le moustique londonien. On l'appelle le moustique londonien parce qu'on a découvert ça à Londres, mais ça se trouve dans beaucoup d'autres pays. En fait, on s'est aperçu que, à Londres principalement, depuis la construction du métro, le moustique s'est transformé en deux espèces distinctes. Une espèce qui vit en profondeur, qui n'a plus besoin d'hiverner, parce qu'il trouve de la chaleur toute l'année, beaucoup plus d'humidité, beaucoup plus de nourriture, les rats, etc. Et il a évolué tellement différemment du moustique en surface que c'est devenu deux espèces, c'est deux sous-espèces, mais c'est vraiment une spéciation différente. Le moustique qui vit en profondeur, le moustique qui vit en surface est obligé d'hiverner pendant l'hiver. Celui qui vit en profondeur ne supporte plus le froid. Si on sort à l'extérieur, il meurt. Même chose pour la drosophile. La drosophile, c'est un animal qui est fort élevé en laboratoire, parce qu'il a les plus grands chromosomes. Enfin, certains ont le plus grand sexe, d'autres ont le plus grand chromosome. La drosophile, elle est élevée dans les laboratoires partout dans le monde. On s'échange les drosophiles en laboratoire. Elles sont toutes élevées à partir d'une seule souche commune. Et elles ont évolué. À tel point qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'elles n'étaient plus capables de se reproduire avec la drosophile qu'on trouve dans la nature. Tout simplement, elle est devenue une autre espèce. Et en fait, ce qu'on peut dire aussi comme preuve de l'évolution, c'est que l'évolution est corroborée dans énormément de disciplines scientifiques variées qui, des fois, n'ont que peu de rapport entre eux. Donc, aussi bien l'étude de la dérive des continents que l'étude génétique, en passant par l'embryogenèse, tout ça confirme chaque fois, alors que ce sont des domaines d'études très différents, confirme l'évolution. Donc, oui, l'évolution a énormément de preuves. Ok, maintenant, deuxième question, que doit-on répondre lorsque les créationnistes font douter de l'évolution en disant qu'il ne s'agit que d'une théorie ? C'est le cas classique. Il faut bien différencier ce qui est une théorie au sens commun et une théorie au sens scientifique. Une théorie au sens scientifique, c'est un ensemble de connaissances basées sur des constatations, des faits, dont on tire des suppositions de départ, que l'on développe par des démonstrations rigoureuses à partir des principes scientifiques. Et alors ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'une théorie au sens scientifique est toujours susceptible d'être complétée, voire même corrigée s'il y a de nouvelles données. C'est d'ailleurs la base de la science. Dans le cas de notre théorie de l'évolution, elle a été souvent mise en question, complétée, corrigée, etc. Et elle est toujours, depuis 150 ans, la théorie expliquant le mieux l'évolution. Donc c'est une théorie excessivement solide. Il ne faut surtout pas la comparer à une théorie au sens commun, qui serait une simple hypothèse qu'on peut éventuellement rejeter assez facilement. C'est très différent. Troisièmement, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent, au nom du respect des opinions de chacun, de tout de même enseigner également des théories alternatives telles que celles de la création ?
Non.
Bien sûr. Pourquoi ? Parce que le rôle de l'enseignant, c'est une transmission de connaissances, de savoir, pas une transmission de croyances. L'enseignant n'est pas là pour transmettre des croyances, mais bien des connaissances et des savoirs. La théorie de l'évolution est une connaissance, un savoir. Le créationnisme, c'est une croyance. Bien sûr, il y a le dessin intelligent qui essaye de s'emballer sous le couvert de la science et d'apporter des preuves de la scientificité de leur théorie. Mais ça ne résiste pas à l'analyse, ce sont des faits dépassés, des contresens, des interprétations erronées, etc. etc. Donc, hors de question d'enseigner cela. C'est un petit peu comme si au cours de biologie, on donnait des théories alternatives sur la reproduction qui seraient les suivantes.
On n'a qu'à donner le cours de chimie minérale et de physique quantique pour de religion.
Parfait. Alors je vais vous repasser un petit film ici qui montre justement la position du ministre, de notre ancien ministre de l'enseignement obligatoire de la communauté française, Christian Dupont. C'est le 2.
C'est que ce discours pénètre dans les écoles. Il y a quelques années, M. Hubinon est choqué par le cours de sciences suivi par ses filles dans une école communale.
Et on leur apprend que la boule de terre s'est refroidie, parce que etc. Bon. Que tout ça s'est fait tout seul. La nature a fait, la nature fait, la nature fait ci, la nature a inventé ci, la nature a inventé. Bon.
Ni une, ni deux, il rédige trois pages sur la création divine, mettant en cause notamment l'existence des hommes préhistoriques, pour que l'enseignant de ses filles les lise en classe.
Je lui ai préparé trois pages de cours, je lui ai donné, il a enseigné, enfin il a dit voilà, il y a une autre alternative. Alors j'avais essayé de dessiner ça comme pour des enfants, bien sûr, j'étais en quatrième ou en cinquième année.
Et les deux versions ont été présentées sur le même pied d'égalité.
Sous le même pied d'égalité.
Je pense que l'enseignante se trompe complètement en donnant... En donnant raison à quelque chose qui n'est pas. Je veux dire, il est clair qu'elle expose quelque chose qui est scientifiquement faux. Et donc ça ne va pas du tout.
C'est une faute. Le film est un peu coupé, mais il précise bien que c'est une faute, évidemment. Alors, je suis 109. « Ah ben j'ai un autre film, pardon, j'aurais dû y passer tout de suite. Oui, parce qu'en fait, il va plus loin, le ministre Dupont, parce que même dans le cours de religion, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et c'est évident, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de jeter la confusion dans les esprits des adolescents qui suivent même le cours de religion. Donc ici...
Si les élèves peuvent se tromper, le professeur de religion catholique, de bonne foi, leur enseigne des erreurs manifestes.
La théorie de l'évolution, c'est une théorie qui ne suit pas tous les paramètres de la science. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des expériences, on ne peut pas prévoir, comme dans d'autres sciences. C'est une théorie très limitée.
Mais qu'un professeur dise ça devant ses élèves, alors qu'il est professeur de religion, soit, mais professeur, c'est un problème.
Je pense que c'est à la fois un problème et une faute. Ça n'a absolument pas sa place dans les écoles.
Cette faute pourrait nécessiter l'envoi d'un inspecteur dans l'école et un rapport insuffisant pour le professeur. Après 3 rapports, un prof peut être...
exclu. Voilà. Donc, c'est clair. Quatrième point, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent, au nom du respect des croyances de chacun, de ne pas trop enseigner, voire de ne pas enseigner du tout, la théorie de l'évolution, car elle ferait la promotion de l'athéisme. Certains disent ça. L'athéisme, évidemment, ne fait pas partie des objectifs de la science, mais c'est vrai qu'on est confronté à ça, hein, parce que respecter ma religion, moi je suis musulman, etc., ou je suis protestant, voilà, on peut être confronté à ça. Donc l'athéisme ne fait pas partie des objectifs de la science, ça, c'est évident. C'est juste que les sciences, quelles qu'elles soient, depuis 250 ans environ, n'incorporent pas la transcendance. C'est-à-dire que ce qui est au-delà de toute expérience possible, ce qui dépasse toute possibilité de connaissance comme outil d'explication d'un phénomène naturel, c'est rejeté, évidemment. C'est le fonctionnement même de la science, c'est tout. Alors, de toute façon, si on va voir plus loin, qu'en est-il des instances religieuses? Qu'est-ce qu'elles disent, les instances religieuses? Bien, pour les musulmans, si on analyse, le Coran n'est pas opposé dans le texte à l'idée d'évolution. Je vous montre un petit film à ce niveau-là.
Tu suis un cours où on parle d'évolution, où tu vas réussir les contrôles, tu vas réussir les examens, mais dans le fond, tu n'y crois pas vraiment.
Ça, c'est une seule question.
Parce que je dois suivre le cours, ce n'est pas le choix. Si je veux réussir, je dois suivre le cours,
mais
j'y crois pas.
Parce que dans le Coran, on dit autre chose.
On dit autre chose.
Nous avons raconté cette scène à l'inspecteur des cours de religion musulmane pour la communauté française. Il est tombé des nues.
Je crois que c'est un non-sens. Un élève n'étudie pas la biologie juste pour réussir son examen. Et dans le cadre de cet élève-là qui dit « moi, je ne crois pas », il ne s'agit pas de croire. Donc là, c'est une science. Il y a une vérité scientifique et on sait très bien le statut de c'est quoi le statut d'une vérité scientifique qui est amené justement à être confronté à l'expérience.
En plus, contrairement à la Bible qui décrit précisément la création d'espèces fixes non évolutives, le Coran n'est pas opposé dans le texte à l'idée d'évolution.
Le Coran n'est pas opposé à l'idée d'évolution et je disais, donc je précise ici que le monde musulman a connu justement des mouvements de scientifiques qui essayent de comprendre le mécanisme et les transformations donc de
l'univers, je pense. Voilà. Voilà. Alors, pour les catholiques, mais la situation pour les catholiques est plus floue, plus confuse. En tout cas, pour le pape Jean-Paul II, la théorie de l'évolution, c'est en 1996, je pense, qu'il a dit que la théorie de l'évolution n'était plus qu'une simple hypothèse. Qu'on puisse dire, mais l'Église catholique s'en défend d'une forme d'évolution théistique, où Dieu aurait soit mis en branle l'évolution puis aurait laissé se développer naturellement, soit aurait guidé subtilement l'évolution, mais en tous les cas sans effet empiriquement observable. Ce n'est pas vraiment du créationnisme, puisque ça ne défend pas une interprétation littérale des récits de la Genèse, et ne s'oppose pas non plus à la théorie darwinienne de l'évolution. Okay ? Donc, normalement, il y a moyen d'être musulman ou catholique fervent, sans s'opposer du tout, évidemment, à la théorie de l'évolution.
Diplomatique.
Cinquième point, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent au minimum reconnaître, en enseignant la théorie de l'évolution, que nous ne savons pas tout, et qu'il y a donc peut-être là l'influence de Dieu, là où on ne sait pas. Bah, ce qu'on va répondre, c'est que même ça, un enseignant ne peut pas le dire. Car ça voudrait dire qu'on admet que Dieu comble la lacune de nos connaissances. Que ce qu'on ne connaît pas, ce serait dû à Dieu. Un petit peu comme dans ce dessin. Une formule élaborée, puis un miracle se produit, et puis on continue la formule. On va mieux être plus explicite dans la deuxième étape. Une telle attitude met un frein à toute nouvelle étude, évidemment. Et c'est diamétralement opposé à l'approche scientifique, pour qui, lorsqu'il y a des lacunes dans notre connaissance, c'est un défi qui incite à poursuivre les recherches, à trouver une explication cohérente et vérifiable et à la tester. Tandis que si on dit c'est Dieu, on n'est pas poussé, on n'a pas le défi d'essayer de solutionner ça. Alors maintenant, les moyens dont dispose l'enseignant face à cette problématique. D'abord, il faut bien avoir conscience, en tous les cas, je pense aux émigrés musulmans qui sont chez nous, il faut bien avoir conscience que la contestation de la théorie de l'évolution, c'est bien souvent une revendication identitaire, culturelle, religieuse, un peu un défi adolescent. Il faut en tenir compte, et tenir compte aussi de la personnalité. Donc, certains font vraiment ça, ils ont pris comme cheval de bataille, un très mauvais cheval de bataille, le refus de l'évolution en se disant ben voilà, je m'oppose à l'Occident, moi c'est mon identité musulmane qui me pousse à faire ça. Ils se trompent complètement, évidemment. Mais il faut en tenir compte en tant qu'enseignant. Il faut bien comprendre la différence entre croyance et connaissance, bien cerner le contour des sciences. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et pour ça, je vais vous montrer trois petits extraits d'une interview de Guillaume Lepointe que je trouve vraiment très chouette.
Alors, Guillaume Lepointe, c'est assez étonnant parce que vous avez des chantiers nouveaux où le darwinisme s'investit et en même temps, il y a une remise en cause très importante du darwinisme, alors qu'il vient d'abord des États-Unis, évidemment, mais pas seulement des États-Unis. Le premier exemple qu'on pourrait prendre, c'est ce Turc, Harun Yahya, qui, avec l'appui d'un certain nombre d'Américains, a fait envoyer à des milliers d'élèves et à des milliers de professeurs, à des milliers d'enseignants, des atlas de la création, à la fois des professeurs de sciences de la nature, à la fois des professeurs de philosophie. En fait, c'est un ouvrage créationniste et qui a pour objectif de promouvoir le Coran avec l'idée il y a un dessein intelligent de Dieu qui explique comment les espèces sont ce qu'elles sont et en conséquence, on ne peut pas accepter la théorie du darwinisme. Alors ça, c'est une opposition un peu simple, mais elle a eu lieu partout, et c'est une offensive quand même extrêmement forte actuellement.
Oui, je crois que ce qu'il faut dire à son sujet, c'est que les négations du darwinisme, ou les critiques, dont on peut voir qu'elles ne sont pas toujours bien renseignées, hein, elles proviennent du dehors du monde des sciences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des parties des sociétés occidentales ou orientales qui n'acceptent pas un résultat particulier de la science ou une production intellectuelle particulière des sciences, qui est la théorie de l'évolution contemporaine. En fait, ce mécanisme central, il est toujours valable et il angoisse beaucoup de gens parce qu'il nous montre qu'il n'y a pas dans l'analyse scientifique de la nature de destin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destin. La variation propose, le milieu dispose. Comme on ne sait pas de quoi demain le milieu sera fait, eh bien, on ne sait pas, prévoir sur un moyen terme ou un long terme ce que sera l'avenir de l'évolution d'une espèce.
Guillaume Lecointre, alors, il n'empêche qu'il y a quelque chose de subtil chez les créationnistes, enfin chez certains créationnistes, qui visent à dire bon, bah, écoutez, d'accord, on va vous laisser la question de l'évolution du côté de la science, mais nous, de façon symétrique, on peut dire que tout ce qui concerne, au fond, la naissance des espèces, l'origine des espèces, il y a un dessin intelligent qui est à l'origine de cette évolution. Et comme ça, on fait moitié-moitié, la science d'un côté et, au fond, la croyance de l'autre.
Le dessin intelligent, c'est le retour promu par des think tanks, les boîtes à idées conservatrices américaines, c'est le retour de la transcendance en tant qu'explication scientifique. Ce à quoi nous avions renoncé, nous, scientifiques, depuis 200 ans. Depuis 200 ans, par contrat, les scientifiques se sont dit, nous n'allons plus expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature, et ceci par voie expérimentale. Ça date, c'est pas juste d'un coup, mais on peut dire grosso modo, ça se stabilise autour du 18e siècle. Hein. Ce que veulent les Américains avec leur intelligent design, enfin certains Américains, c'est pas tous bien sûr, certains think tanks conservateurs américains, ce que veut Harun Yahya, c'est finalement soigner la science, dans le cas d'Harun Yahya, dans ses productions, soit en quelque sorte réinvestir la science en faisant comme si elle pouvait incorporer dans ses explications une transcendance. Ça n'est ni plus ni moins que que la confusion entre la science et la théologie. Pour bien placer la science par rapport à la religion, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au fond, c'est comme une opposition entre science d'un côté et idéologie de l'autre ?
C'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que les scientifiques ont comme métier de produire des connaissances dites objectives. Comment deviennent-elles objectives ? En se donnant la possibilité de reproduire des expériences entre collègues. C'est-à-dire que ce que j'affirme, un collègue va pouvoir le tester, même s'il est à l'autre bout du monde, grâce à une expérience sur le monde réel. Donc, voilà, il y a une dimension réellement collective de la construction des savoirs scientifiques. Par contrat, on s'arrête au monde physique, on s'arrête aux faits, on s'arrête à ce qui est expérimentable. Mais au-delà de cela, notre profession n'a pas pour vocation de s'énoncer sur le terrain métaphysique. Chacun chez soi, effectivement, est libre à l'échelle individuelle d'opter pour une métaphysique particulière. En aucun cas, cette option, ce choix individuel qu'on aura fait, ne mérite le statut de connaissance objective. Or, vous reconnaîtrez tous les créationnismes et les spiritualismes sophistiqués que nous avons en France, vous les reconnaîtrez tous à ce travail de brouillage qu'ils font entre la dimension collective et la dimension individuelle. On convoque des scientifiques au nom de leur profession à prendre la parole sur des options métaphysiques qui leur est personnelle. Et donc il y a un dévoiement d'une déontologie quelque part. Là, cette profession qui ont fait ce qu'ils sont, ces hommes-là, eh bien, ils font comme si elle avait été en quelque sorte élaborée pour soutenir leur option métaphysique personnelle. Quand vous expliquez à des élèves que lorsqu'ils posent une question qui est honnêtement une question qui attend une réponse rationnelle sur le monde réel, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il est vague sur la mer, pourquoi je suis long et pourquoi mon copain il est brun, si à chaque fois vous posez une question, vous répondez c'est Dieu qui l'a fait, alors que la question résulte d'une soif de rationalité sur le monde réel, les élèves comprennent bien que c'est pas satisfaisant. La réponse « Dieu qui l'a fait », c'est « Dieu qui l'a fait », c'est une réponse qui est propre à nous rassurer. C'est lorsque la fonction est de se rassurer. Mais ce n'est pas le boulot des sciences que de rassurer les gens. Dans un cours de sciences nat, il ne peut pas y avoir de créationnisme. Parce qu'on fait comme si on donnait une réponse à des élèves, comme si on cherchait à les rassurer, alors que la question de science qui fait sens, c'est la question de rationalisation du monde réel, vous voyez. Donc on a une soif de connaissance en science, on donne des réponses pour étancher cette soif de connaissance. Les réponses qui consistent à nous rassurer n'ont rien à faire dans les sciences et ni dans l'enseignement des sciences d'ailleurs.
Il y a quand même une question, c'est que bêtement, je crois qu'on utilise parfois le mot croyance à toutes les sauces. Et on dit croyez-vous à la théorie de l'évolution? Alors, c'est une bêtise, parce qu'on ne croit pas à la théorie de l'évolution comme on croit à Dieu, en Dieu éventuellement. C'est pas du tout pareil, c'est un acquis justement d'un processus extrêmement complexe, historique et collectif.
Évidemment, il est évident quand on dit je crois en la théorie de l'évolution, il ne s'agit pas d'une foi, bien sûr. Il s'agit de penser que si on veut une explication rationnelle du monde réel, cette construction, qui est une théorie qui maximise la cohérence d'un grand nombre de faits, d'hypothèses et de modèles entre eux, cette théorie, c'est ce que j'ai de plus puissant pour rendre compte de la diversité de la vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai des raisons de penser qu'elle est cohérente, car elle permet même de faire des prédictions sur des choses aussi compliquées que les êtres vivants. Donc les croyances, dans le sens, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est ce qu'il y a de plus fiable pour aujourd'hui. Mais vous pouvez être croyant dans ce sens-là et rester sceptique. Et c'est ce que sont les scientifiques, d'ailleurs. Nous ne cessons de remettre en cause ce que nos prédécesseurs ont trouvé à l'intérieur de cette construction théorique. Donc je distinguerai bien, comme vous le faites, une croyance au sens de foi, j'ai foi en, et une croyance au sens de, c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant, si vous avez une meilleure théorie, je suis prêt à prendre, mais c'est en mesurant la cohérence de ces théories alternatives qu'on choisira l'une ou l'autre.
Merci, Hans Quandt.
Bien cerner le contour des sciences. Le point suivant, donc, comme moyen dont dispose l'enseignant, c'est de maîtriser le plus parfaitement possible la théorie darwinienne de l'évolution, évidemment. Et ce, par exemple, pour faire face aux questions du style « Mais pourquoi est-ce que si on descend du sage, pourquoi est-ce que les sages n'ont pas, certains sages n'ont pas évolué, nous on a évolué, ou des choses de ce style, comme je vous l'ai expliqué. Même chose si on a des questions sur la complexité de l'œil, rien n'explique comment un œil peut se former, etc. C'est tout à fait faux, il y a moyen d'expliquer. Ça, c'est relativement bien expliqué. Il faut essayer de savoir maîtriser le plus possible la théorie darwinienne de l'évolution pour pouvoir l'enseigner, évidemment. Il faut aussi bien comprendre ce que sont les créationnistes, le créationnisme et ses dangers. Pour ça, pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire, collègues, organismes extérieurs, sites internet, dossiers existants, etc., etc. On en trouve des tas sur le net. Enfin, il faut aussi faire preuve de beaucoup d'imagination et faire appel à des moyens didactiques plaisants et ludiques, puisqu'on va se retrouver confronté à des ados qui viennent avec des idées préconçues, bien ancrées dans leur crâne. Si on ne parvient pas à les accrocher dès le début pour essayer de leur faire changer d'avis, ça ne marchera pas. Donc, trouver des moyens didactiques plaisants, ludiques, c'est important. Je peux vous montrer un petit film rapidement, on ne va pas le voir tout, mais je le trouve vraiment agréable à voir, bien qu'il y a des erreurs dedans aussi, mais je vous expliquerai pourquoi j'aime bien ce petit film-là aussi.
Composez notre puzzle de corps. Vous êtes prêts? Allez, joue, c'est parti! Que nous sommes toutes et tous les descendants d'organismes unicellulaires comme celui-ci. C'est difficile à croire, hein? Ben oui, ben ça fait de vous des lointains cousins de la méduse et du salsifis. Bon, mais c'est aussi. Ça y est, en voilà déjà un qui fait grand appart. Regardez ces chloroplastes. Avec l'apparition de la photosynthèse, commence le monde végétal. C'est ici que toutes les routes de nos aïeux et ceux du marronnier se séparent. Pendant ce temps, chez les animaux, les organismes se développent selon des schémas particuliers. Regardez. C'est maintenant que la symétrie bilatérale apparaît chez certains comme vous, moi ou les ancêtres de la coccinelle ou de la sèche. Regardez à quoi ressemblaient nos aïeux il y a 520 millions d'années.
À moi, un petit gaillard. Et si monsieur je sais tout pouvait m'expliquer ce que c'est que cette chose qui traverse mon corps?
C'est une corde dorsale, petit Pikaïa. La toute première ébauche de la colonne vertébrale dont hériteront les reptiles, les poissons, les amphibiens, nous, les oiseaux, et même vous, les mammifères.
Et c'est une belle descendance pour un tout petit organisme comme moi, non? Ah, qu'est-ce que c'est que ce monstre?
L'anomalocaris. Ah, ça c'est un chasseur, hein? Visez-moi ses yeux à facettes. C'est captivant, non? Et savez-vous qui en a hérité? La mignonne coccinelle.
C'est difficile à croire quand on voit cette bestiole.
Voilà, on va l'arrêter là, mais je vous montre ce petit film-là parce qu'en fait, c'est un film qui est projeté dans la géode de la salle consacrée à l'évolution du musée des sciences naturelles ici à Bruxelles. Et c'est un petit film, moi je vais une à deux fois l'an au musée avec mes enfants qui ont 6 et 7 ans, mais on y allait déjà quand ils avaient 3-4 ans. Et quand ils ont vu ce film-là, ils ont été attirés par ce film-là. Depuis lors, ils savent tout sur Pikaïa, sur l'anomalocaris. Ils me demandent des Pikaïa et des anomalocaris en doudou plutôt que des. Donc ça veut dire que ça accroche très bien les enfants et ça marche bien. Mais c'est certain qu'il y a des tas d'outils qui existent pour les enseignants et aller au musée des sciences naturelles, montrer des films comme celui-là, etc. C'est vraiment, je pense, important. On touche à sa fin, c'est presque fini. Je pense que c'est fini. Alors, voilà, donc ce petit film-ci. Donc des films, des documentaires, des visites de musées, des sorties, des jeux, des pièces de théâtre, des cours interdisciplinaires, des expériences interactives interpellantes. Il y a moyen de faire des tas de choses pour attirer les ados à remettre leurs idées préconçues en question. Ben c'est la fin. Donc en guise de conclusion, on voit la méthode scientifique. Voici les faits. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Comparé à la méthode créationniste, voici la conclusion. Quels faits pouvons-nous en trouver pour l'appuyer? Voilà. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, j'ai, dans le cadre d'un travail, enfin, module de recherche autour de la problématique liée à l'adolescence, pour mon certificat d'aptitude pédagogique, CAP, en 2009-2010, pour le cours de psychologie, de psychopédagogie et méthodologie générale, j'ai fait un travail sur le refus de la part de certains adolescents d'accéder grâce à l'école à certaines connaissances spécifiques, via l'assimilation antérieure, principalement hors scolaire, de croyances qui s'y opposent, cas particulier du rejet de la théorie de l'évolution. Autrement dit, le rejet de la théorie de l'évolution par les ados dû à leurs croyances religieuses. Voilà. Ce cours, eh bien, ce travail, il est disponible sur le site web du Cortex. Si vous connaissez le Cortex, je vous invite vraiment à aller voir ce site. Et c'est donc un collectif d'enseignement et de recherche en esprit critique et en sciences de l'Université de Grenoble. Il est disponible à cette adresse-ci. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site? Mon travail, des films documentaires de mon travail, une description détaillée sous forme de préparation d'une pièce de théâtre que j'ai créée comme défense, comme présentation orale de ce travail, un PowerPoint et un servi pendant la pièce de théâtre qui est plus ou moins le PowerPoint que je viens d'utiliser ici, et des extraits de films ayant servi pendant la pièce de théâtre. Voilà. C'est tout, je n'ai plus rien à dire.